Après, ça va marcher. Alors, pour me présenter rapidement, donc je suis un Parisien, prêtre à Paris depuis 1984, donc ça fait 33 ans, presque 34, évêque depuis 2006, donc depuis presque 12 ans, évêque auxiliaire à Paris. Et mes principales missions, par exemple depuis 1989, j'ai eu une mission en continu qui a été la formation des futurs prêtres. Donc j'ai commencé par être professeur, directeur spirituel au séminaire comme ça pendant un certain nombre, d'années. J'ai fait tous les différents postes qu'il y a dans le séminaire, et maintenant je suis l'évêque chargé de la formation des séminaristes. Donc vous voyez que, et même sur la conférence épiscopale, je m'occupe de la formation des futurs prêtres. Vous voyez au moins qu'il y a une continuité depuis 89, ça fait quand même 28 ans, mais je ne crois pas faire toujours la même chose quand même.
J'ai une question.
Oui.
Il y a plusieurs évêques par département, mais
alors je vais répondre à cette question après. Ensuite, actuellement sur Paris, donc je suis évêque auxiliaire, donc il y a l'évêque résidentiel, l'archevêque de Paris, le cardinal André 23, qui lui est responsable de tout le diocèse de Paris, et pour l'aider, pour démultiplier sa présence, on a des démultiplicateurs de présence, c'est-à-dire les évêques auxiliaires, qui lui permettent d'être puisqu'il y a actuellement 4 évêques auxiliaires, ça lui permet d'être à 5 endroits en même temps. Là où il est et aux 4 autres endroits où il y a les 4 auxiliaires. Donc on est en gros des démultiplicateurs de la présence de notre archevêque. Voilà, donc ça permet qu'il puisse avoir cette relation dans une ville aussi grande que la nôtre. Donc, et puis il y a un autre vicaire général. Alors, comme évêque auxiliaire, je m'occupe principalement de tout ce qui est au centre, donc des 6 premiers arrondissements, donc de toutes les paroisses et communautés, dont évidemment la communauté d'étudiants et de jeunes de Jussieu, sachant que c'est plus large, puisque j'ai aussi un coup d'œil sur ce qui se fait en Ile-de-France pour les communautés étudiantes. Donc, voilà, je m'occupe principalement, en plus des paroisses et communautés des 6 premiers arrondissements, de tout ce qui est le collège des Bernardins. Alors, j'espère que certains iront voir sur Internet ce que c'est que le collège des Bernardins. C'est un lieu d'enseignement de la philosophie et de la théologie, où il y a 4000 étudiants de tous âges, ça va de 18 à 90 et quelques années. Là-dedans, il y en a qui suivent des cours à la faculté canonique de théologie pour faire les grades canoniques, baccalauréat de théologie, licence canonique, doctorat. Il y en a d'autres qui suivent des cursus européens, c'est-à-dire licence, master ou doctorat en licence européenne ou en master européen de sciences religieuses. Il y en a qui suivent ça en parallèle de leurs études de lettres ou quand ils sont dans des études de faculté qui laissent du temps libre pour pouvoir faire un double cursus. Il y en a qui sont sur des doubles cursus lettres et théologie. Voilà, et puis il y a tous les cours publics et tous les autres types de formations, dont la formation des responsables, qui sont des formations sur 2 ans, à 8 heures par semaine, qui donnent une vision complète de la foi pour pouvoir y répondre. Dans le collège Bernardin, il y a aussi 250 chercheurs sur différents thèmes, dont par exemple, on a beaucoup travaillé sur la question du numérique, tout ce qui est la robotisation, tout ce qui transforme l'humanité à travers l'acquisition du numérique. On a, pour les philosophes, on s'est rappelé, je crois que c'était Socrate, qui a écrit tout un texte pour protester contre le passage de l'oralité à l'écriture, disant, mais vous ne vous rendez pas compte, et donc il disait, mais vous ne vous rendez pas compte dans le passage d'écriture de tout ce que vous êtes en train de perdre, en perdant l'oralité, et donc en critiquant ce passage à l'écriture. nous sommes en train de passer de l'écriture à l'image et au numérique. Et c'est important de savoir qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne, et est-ce que la rupture est aussi forte que la rupture dont parlait et que critiquait Socrate entre l'oral et l'écrit. Est-ce qu'on pourrait, j'ai demandé à mes équipes, parce que c'est avantageux d'avoir des équipes, ça évite de réfléchir soi-même. Donc j'ai demandé à mes équipes d'essayer d'écrire la réponse à Socrate sur le passage de l'écriture au numérique. Qu'est-ce qu'en ayant lu Socrate sur ce passage de l'oral à l'écriture, qu'est-ce qu'il lui répondrait dans le passage que nous sommes en train de faire? Mais je le dis à la fois avec humour, parce que j'espère bien qu'ils vont me l'écrire, surtout que je leur ai déjà donné le plan que moi j'avais dans la tête, donc, mais surtout parce que je pense que c'est une question très importante quand on est une génération comme la vôtre, plus que la mienne qui est un peu vieille, mais comme la vôtre qui est une génération qui est en train de vivre une charnière dans l'histoire de la pensée humaine, anthropologique. C'est-à-dire que le passage de ce que nous avions vécu de l'écriture et ce qui est en train de se construire comme modalité de pensée par le numérique, c'est une charnière de l'histoire anthropologique. Parce que ça change notre manière de penser, ça change notre relation à l'autre, ça change énormément de modes de réflexion. Et donc que votre génération qui est en train d'être les acteurs de ce changement soit capable de faire la réponse à Socrate, c'est-à-dire d'être capable de savoir comment ils vont articuler l'écriture et le numérique dans l'humanité qu'ils sont en train de construire aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, ça m'avait semblé très intéressant, je suis parti tout à fait ailleurs que dans le sujet, mais je vais revenir sur mon sujet. On m'a dit de me présenter, alors comme ça c'est une manière de me présenter, que je parte sur un sujet. Notre recherche, on a demandé à une classe de CM2, c'est peut-être une école carrément CM1, CM2, de construire un robot. Donc c'est des jeunes de CM2 qui ont construit des robots. C'était très intéressant parce que les vieux, enfin ceux qui étaient au colloque, ont dit, mais vous êtes en train de, qu'est-ce que vous faites avec ces jeunes, de les mettre tout de suite sur des tablettes, etc. Vous rappelez, je ne sais plus si c'est le PDG pas de Google, mais de ce machin iPhone là, d'Apple, voilà, comment c'était ce truc-là, qui a interdit à ses enfants d'avoir des tablettes. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que les grands inventeurs refusent à leurs enfants. Vous savez, c'est comme je crois que c'est le PDG d'Amazon qui a interdit dans toutes ses réunions de comité de direction les PowerPoint. Il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes à repérer dans comment est-ce que des gens qui ont qui sont des grandes figures de l'invention numérique ou de la transformation, ce qu'ils ont vécu dans cette transformation et du coup ce qu'ils interdisent à leurs enfants. Ça nous fait apprendre énormément de choses. C'est aussi quelque chose que je pense qu'il serait très important d'étudier. Les plus âgés disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette manière de les projeter dans le numérique? Et la prof, elle a bien expliqué, elle a dit, mais vous savez, pour faire un robot, il faut être capable d'écrire, il faut être capable de réfléchir, il faut faire le scénario de ce que l'on veut faire. L'intelligence artificielle, c'est pas si évident à écrire, à programmer, à voir comment ça va changer. Et ça leur apprend tout un chemin d'écriture, de réflexion, d'intégration et d'être maître de l'objet et non pas fasciné par l'objet, de ne pas devenir l'objet du robot, mais de devenir le sujet du robot. Et donc, c'est un acte de liberté qui passe par l'écriture pour pouvoir arriver à cette robotique et à cette intelligence artificielle. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on n'est pas du tout sur le même passage. Si on ne se laisse pas dominer et qu'on accepte d'être le sujet, non pas l'objet de cette évolution numérique, on n'est pas dans le même passage que celui de l'oralité à l'écriture. On est sur un autre type de passage et de construction humaine qui vaut la peine vraiment d'être réfléchi. Et tout de suite après, je vais m'arrêter sur ce sujet-là, mais ça vous aura fait au moins une parenthèse sur un sujet. Je vous dirai pourquoi c'est de la théologie ce que je viens de faire aussi, parce que c'est important. Même des théologiens me disent, mais c'est pas de la théologie d'étudier le numérique. Mais si, c'est de la théologie. Ça vous montre aussi que je pense que dans nos cultures, qui sont des cultures littéraire. En France, je pense en Italie aussi, on a une culture littéraire, une culture de la réflexion. On ne sera jamais comme les Américains ou les Chinois. C'est-à-dire, on ne sera jamais les maîtres du numérique. Pas tout de suite en tout cas, pas dans les 15 ou 20 prochaines années. Mais ce que notre culture et notre méthode d'enseignement va pouvoir apporter à cette évolution mondiale, c'est ce que, justement, la culture américaine ou chinoise ne pourra pas apporter. C'est, et que l'intelligence artificielle ne pourra pas faire. C'est la transversalité et la dimension critique. Et, justement, cette dimension critique et transversale de mettre en rapport des choses qui ne se mettent pas en rapport et la dimension critique sont des dimensions qui seront les la dimension qui peuvent être, justement, le point d'attente ou, en tout cas, je pense qu'il y a une possibilité dans 10 ans que c'est là où il y a le créneau de l'embauche, si vous voulez que je vous dise, par rapport à l'évolution du numérique. Si je vous donne déjà les futurs créneaux d'embauche dans les nouveaux métiers qui vont apparaître. Alors, oui.
Je veux dire, c'est pas. Vous êtes en train de dire que. Vous êtes en train de dire que ce passage va prendre la place de l'écriture, ou simplement, je ne sais pas comment dire,
je suis en train de dire qu'il y a un risque, mais en même temps j'ai dit le contraire. C'est-à-dire j'ai dit une chose et son contraire, ce qui est quand même plutôt dans ma personnalité.
qu'on saura réguler ça.
C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, ça peut être un passage, mais que si nous, on accepte d'être vraiment responsables et sujets dans notre action, au contraire, on fera un passage dans lequel l'écriture et l'intériorité peuvent permettre de donner un plus à l'humanité, un plus positif dans cette manière de le faire. Et là, je n'ai pas le temps, puis ce n'est vraiment pas le sujet que je vous développe, des exemples de robots et de, par exemple, ça rejoint un petit peu, c'est la question de la maladie d'Alzheimer. Et dans le soin de la maladie d'Alzheimer, il y a un type de robot qui est un robot à l'intelligence artificielle qui justement aide et accompagne le malade d'Alzheimer dans sa souffrance et qui calme un certain nombre d'aspects violents ou d'aspects de douleur ou d'aspects de souffrance, alors même plus que les médicaments, et en tout cas autrement que dans la médication. Mais ça, on a étudié ça dans mes départements de recherche. Et puis, vous avez ça sur Internet, c'est les phoques.
Alors,
vous pouvez l'acheter, c'est assez cher, mais ça doit être 2000 euros, 2000 ou 2009, je ne me rappelle plus très bien. Mais il y a effectivement, mais ce n'est pas du tout développé en France. En France, on n'est pas rentré dans ce domaine-là du soin. C'est une autre manière de soigner qui passe par l'intégralité aussi du chemin affectif dans la souffrance et la manière dont on peut canaliser quelque chose de sa souffrance dans son affectivité, dans son rapport avec un objet autre. Mais je ne vais pas repartir là-dessus, sinon je serai obligé de me réinviter pour que je vous parle du sujet. Donc ça vous dit un peu, et puis alors aux Bernardins, parce que j'étais en train de vous présenter les Bernardins, il y a aussi toute une partie sur la culture contemporaine, de l'art, etc. Mais on a 250 chercheurs qui sont aussi bien sur l'économie, sur la place des administrateurs salariés dans l'entreprise, sur la propriété de l'entreprise, sur la famille, sur la bioéthique, tous les grands sujets sur lesquels on peut, évidemment sur l'interreligieux, sur l'islam, sur le judaïsme, pas mal sur l'Europe, évidemment. Ce midi, je travaillais sur la question de l'Ukraine et de la paix et de la manière dont, en Ukraine, vous savez qu'il y a chaque jour des Ukrainiens qui meurent au front dans la guerre contre la Russie. Et vous savez qu'une partie dans cette guerre, qui est quand même à 2 heures d'avion, il y a une grande partie des soldats qui tombent en Ukraine sont des russophones du patriarcat de Moscou, et ils ont en face, comme soldats russes contre lesquels ils combattent, c'est des Russes qui sont aussi du patriarcat orthodoxe de Moscou. Donc il y a un vrai drame spirituel, aussi un vrai drame religieux qui se joue dans cette guerre fratricide sur la partie de la Crimée et tout ça. Donc, c'est pour vous dire que voilà, c'est tout un travail sur la réconciliation de la mémoire et sur savoir comment on peut construire la paix par une réconciliation de la mémoire dans le peuple sans prendre la dimension politique de spécialiste, pour que la paix ne soit pas simplement une question politique, mais aussi puisse être prise par le peuple. On a travaillé aussi cette question de la réconciliation de la mémoire et de la réconciliation du peuple avec la Tchéquie depuis 5 ou 6 ans. On travaille en collaboration avec eux et régulièrement, soit mes équipes, soit ça m'est, j'ai dû y aller une ou deux fois, on va à Prague et justement on travaille ces questions. C'est pour vous dire la variété de mon travail comme évêque. Vous voyez, c'est comme présentation, ça vous montre que entre ce que vous pouvez imaginer de ce que fait un évêque et la réalité, il y a une grande marge de type d'activité. Voilà, ben ça suffit. Hein. Donc principalement, je m'occupe formation, séminariste, diaconat permanent, puis le reste, quoi. Le pape François, oui. Jean-Paul II, Benoît XVI et François.
Et alors, vous avez une préférence?
Je n'ai pas de préférence. Ils sont très différents les uns des autres. J'ai une grande admiration pour Benoît XVI, parce que je pense qu'il n'a pas été bien connu en France, et que ça a été un très très grand pape. Et que c'est un pape qui a apporté une ouverture, une énorme à l'Église, et puis que c'est un homme d'une douceur et d'une humilité, comme jamais j'ai rencontré quelqu'un, d'une intelligence, d'une douceur et d'une humilité, et d'une attention à ce qu'on peut vivre en profondeur, d'une façon extraordinaire. Un homme d'une très très grande attention spirituelle.
Oui, c'est vrai qu'en France, on lui a plutôt tapé dessus.
Ah, ben c'est parce qu'on ne sait pas passer du regard qui voit l'extérieur à travers les médias à celui qui voit le derrière de l'écran. À celui qui voit la réalité. Donc, quelquefois, notre vision de la réalité est une vision médiatique et non pas une vision réelle.
Est-ce que les médias, ils mentent?
Non, je n'ai jamais dit ça. Mais les médias montrent un visage et ne voient pas forcément l'intérieur de quelqu'un. Ils ne peuvent pas rendre compte de l'intérieur parce que ce n'est pas ce qu'on leur demande. Alors, pour vous parler du sujet quand même, alors il faut que je vous parle de la question de la souffrance et de la maladie, c'est ça que vous m'avez demandé. Je dirais d'abord que c'est difficile de savoir par quel bout le prendre. Parce que j'avais fait un plan et puis je suis en train d'en changer, alors je vais essayer de prendre plutôt le nouveau, celui qui apparaît dans ma tête. Il faut d'abord que nous prenions en compte un élément, c'est que nous sommes tous malades. Que c'est quand même quelque chose qui... Voilà. Aucun d'entre nous, nous sommes des bien portants.
Mental et physique.
Je précise pas. Parce que pour moi... Non, mais il ne faut pas chercher. Il faut se dire que on a tous en nous une souffrance. On a tous en nous des blessures. On a tous en nous des limites. Et justement... Et que ma question devant la question de la souffrance ou de la maladie, c'est d'abord que je me reconnaisse comme un homme limité, comme un homme qui porte des blessures, comme un homme qui a des souffrances, et comme quelqu'un qui a au fond de lui finalement un combat sur ses limites, sur ce qu'il n'arrive pas à faire, sur ce qu'il aimerait faire, sur finalement ce qui nous handicape chacun d'entre nous. Ce n'est pas la même chose qui nous handicape les uns et les autres. Mais on a tous finalement quelque chose qui nous handicape, pas de la même manière. On a parfois un handicap dans le mode de relation à l'autre, on a quelquefois un handicap dans nos capacités, quelquefois... On est des êtres limités. Et alors, quelle est la force et la grâce? Et comment nous situer par rapport à Dieu, alors même que nous découvrons nos propres limites? Là, il y a Il y a d'abord une première réponse qui est de reconnaître que Dieu n'a pas voulu la mort, que Dieu n'a pas voulu le mal. L'homme n'est pas créé pour être un homme pécheur, pour être un homme souffrant, pour être un homme victime du mal. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Dieu n'a pas voulu la mort de l'homme. Ça, c'est déjà un élément essentiel. Parce que si je disais le contraire, si je donnais un statut à la souffrance, un statut à la mort, un statut en disant, ben voilà, moi, je souffre, je fais des péchés, je meurs, c'est normal, je suis un homme. Ben, j'espère que, comme moi, vous êtes scandalisés par la mort. Parce que ça détruit des liens. Ça détruit des liens d'amitié. Ça détruit des liens qui nous construisent. J'espère que, comme moi, vous êtes ce qui détruit l'homme est quelque chose qui vous scandalise. Et si je disais le contraire, j'espère que vous seriez scandalisés. Parce que je ne peux pas vous présenter un Dieu d'amour en vous disant qu'il nous a voulu dans ses limites, dans ses péchés, qu'il nous a voulu pour la mort, ou qu'il nous a voulu pour être victime du mal. Que serait un Dieu d'amour s'il faisait de nous et s'il avait voulu de nous que nous soyons victimes ainsi du mal, de la maladie ou de la souffrance? Donc, mon axiome de départ de dire Dieu est amour et Dieu n'a pas voulu ni le mal, ni la souffrance, ni la mort, c'est essentiel. C'est essentiel pour deux raisons. D'abord, pour sauver mon Dieu qui est un Dieu d'amour. Le sauver, c'est-à-dire que c'est son identité et je n'en bougerai pas. Je ne peux rien, c'est ma foi. Donc, c'est solide. Donc, ce Dieu d'amour, c'est un Dieu d'amour, point. Et puis, c'est aussi essentiel pour que je puisse sauver l'homme. Parce que comment voulez-vous vous aimer vous-même s'il y a une partie de vous-même qu'il faudrait nier, celle qui est victime ou coupable du mal et de ce qui détruit? Comment pourriez-vous vous aimer vous-même alors que, comme saint Paul, nous disons que nous faisons le mal que nous ne voudrions pas faire et que nous ne faisons pas le bien que nous voulons faire? Comment est-ce que vous pourriez vous aimer vous-même alors même que vous savez bien la complexité des choix et des décisions que nous avons à prendre, qui ne sont jamais du tout bien ou du tout mal? On est sans cesse devant des vrais actes de discernement qui sont complètement compliqués, si je peux dire ça comme ça avec humour. Et donc, vous voyez bien que c'est capital de sauver à la fois l'homme, image de Dieu, pour que nous puissions nous aimer nous-mêmes, et que je puisse sauver Dieu comme étant un Dieu d'amour et qui n'a pas voulu le mal. Donc cette manière de comprendre ça, c'est de comprendre que pour comprendre l'homme, pour comprendre qui je suis, il faut regarder l'homme avant le péché originel. Il faut regarder l'homme avant le péché. C'est le « avant le péché » qui va me donner de comprendre qui je suis. Ce n'est pas le péché qui va me donner de comprendre l'homme. C'est l'amour qui va me permettre de comprendre l'homme. Et donc la clé de compréhension devant la situation que nous vivons, c'est l'amour et non pas le péché. C'est l'amour qui va me faire comprendre comment aujourd'hui je peux vivre la question du mal, de la souffrance, de la mort. Mais vous voyez ce déplacement, c'est quelquefois... On nous dit d'où vient le mal, on nous dit c'est du péché, et puis voilà, alors c'est super parce que non seulement on souffre, mais en plus on est culpabilisé parce que c'est notre faute, c'est notre péché. On a bien répondu. Hein. Là, on a fait exactement la réponse qui va nous enfoncer et qui dit quelque chose qui est opposé à Dieu. Non, c'est l'amour qui est la clé de compréhension et la clé d'interprétation de la personne humaine. Parce que Dieu est fait, l'homme est fait pour cet amour, et Dieu a créé l'homme pour cet amour. C'est la situation de l'homme. Avant le péché originel, on est fait pour la vie, pour être des vivants.
Au niveau des réponses, ça dépend sur qui on tombe.
Quoi ?
Au niveau des réponses, ça dépend sur qui on tombe. Si on tombe sur une personne qui va nous aider à relativiser, par exemple, quand on est face à une situation négative, ça ne va pas être la même chose que si on tombe sur une personne qui va nous culpabiliser.
Oui, mais t'es pas sur une question de la personne qui est en face de toi. C'est la question comment toi-même, tu vas être capable de te donner ta clé de compréhension de ta vie.
Parce que
pour ça, il faut chercher, justement. Il faut chercher, et c'est justement ça. La question à ce moment-là, elle est comment je vais comprendre la souffrance et la mort aujourd'hui. Alors, vous pardonnerez, nous ne pouvons pas traiter toute cette question-là en une demi-heure, vous pardonnerez le fait que je la situe par rapport à notre baptême. Et donc que je reprenne, que j'ai plutôt un discours de foi qu'un discours général, mais c'est pas grave. Et donc, je vais me poser la question du mal et de la souffrance et de la mort comme baptisé. Voilà, moi j'ai été baptisé il y a quelques années, longtemps. C'est-à-dire que j'ai été plongé dans la mort du Christ pour ressusciter en lui. Par mon baptême, je suis un ressuscité. J'appartiens à la résurrection du Christ. J'appartiens à la vie de Dieu. Et donc, il y a une alliance, comme je vous disais tout à l'heure, entre Dieu et moi, entre moi et Dieu, qui est une alliance de vie. Je ne suis pas quelqu'un qui va vers la mort, je suis quelqu'un qui est déjà ressuscité, qui va vers la vie. Et donc, j'ai déjà en moi cette vie de résurrection. Et donc, le fait d'être ressuscité par mon baptême, d'être entré dans la résurrection du Christ, va changer la nature de ma vie. Ce n'est pas simplement une petite bénédiction sur une naissance. C'est un changement de nature de ma vie d'être baptisé. Et ce que ça change dans la nature de ma vie, c'est que du coup, aujourd'hui, je suis appelé à signifier et à vivre de ma vie en Dieu, de ma vie dans le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et donc, c'est ma vie dans le Christ que je vais manifester dans ma manière de vivre. Et donc, qu'est-ce que c'est que manifester aujourd'hui ma vie dans le Christ ? C'est pas me dire ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est faire de la morale. Et moi, je suis pas, je suis chrétien, je suis pas un moraliste. Un chrétien c'est pas un moraliste. Un chrétien c'est quelqu'un qui se dit est-ce que ce que je suis en train de vivre est dans la vie du Christ ou me met à côté du Christ ? Ah, évidemment, vous allez me dire ça peut se recalculer, se superposer le bien quand vous avez la conception du bien du Christ, mais, et le mal quand vous avez la... Mais vous savez, quand vous êtes devant un magistrat, je me rappelle avoir parlé il n'y a pas longtemps devant une magistrate dans une conférence, elle est revenue me voir en disant vous parlez du bien, mais moi le bien ça n'a pas de valeur, hein, c'est le droit. Pour moi la question du bien commun et tout ça, c'est pas la question. Moi c'est le droit ou pas le droit. Je suis pas sur cette valeur morale du bien ou du mal. Je suis sur la valeur du droit ou pas. C'est intéressant comme discussion avec cette magistrate. Heureusement, elle ne me l'a pas dit.
Donc elle ne sort pas de son système.
Ben non, elle est servante d'un système du droit. Et c'est son métier, hein. Mais c'est pour vous dire...
Là, c'est robotique.
Non, c'est pas ça, c'est pas robotique. Mais c'est pour vous dire simplement que... Moi, je ne suis pas sur le rapport du bien ou du mal. D'abord, je suis sur le rapport, est-ce que je vis dans le Christ ou est-ce que je ne vis pas dans le Christ ? Est-ce que pour moi, ce que je fais va correspondre à l'action du Christ ressuscité, à ma communion au Christ ressuscité dans ma manière d'agir ? Et c'est ça, justement, qui va être le but.
Est-ce que c'est possible des magistrats qui sont catholiques ?
Oui, bien sûr.
Et alors, comment ils...
Ah, ben, je ne sais pas. Il faudra que vous les alliez leur demander. Mais je vais continuer sur mon... Sur ma piste, déjà, parce que sinon vous allez me faire dévier. Et donc, à ce moment-là, la question qui se pose par rapport au mal, la souffrance et la mort, c'est comment Dieu se comporte vis-à-vis de la souffrance, du mal et de la mort. Parce qu'une fois que j'ai dit « il ne l'a pas voulu », après, la question suivante, c'est comment est-ce que Dieu se comporte par rapport à cette question ? Parce que c'est ça qui va m'apprendre à moi à réagir devant la question de la souffrance, du mal ou de la mort. C'est de comprendre comment Dieu, lui, agit. Or, tout ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Dieu s'est engagé dans l'histoire des hommes pour combattre ce qui rend l'homme esclave, pour la liberté. Ça, c'est le passage de la mer Rouge, par exemple. Pour combattre les injustices. C'est Amos contre ceux qui truquent les balances pour gagner plus d'argent, si je prends l'exemple d'Amos. C'est le pardon qui libère Osée. Je te conduirai au désert, je parlerai à ton cœur et je me fiancerai à nouveau à toi. Tout le temps, il y a ce combat qui se répète d'un Dieu qui vient combattre ce qui opprime l'homme, combattre le mal, combattre la souffrance, combattre ce qui enferme l'homme dans lui-même. Et puis, l'ultime point du combat, parce que les prophètes se sont fait tuer et tout ça, ça n'a pas bien marché. L'ultime point du combat, c'est Dieu qui s'est fait homme. Comment Dieu a-t-il mené alors en Jésus-Christ ce combat contre le mal, la souffrance et la mort? Comment? Parce que si moi, par mon baptême, je vis dans le Christ, il va falloir que je fasse comme le Christ. Donc que je mène le même combat que lui. Et vous voyez que mon premier point, c'était de ne jamais justifier la souffrance, le mal ou la mort. Je ne leur donne jamais un statut. Par contre, je comprends que Dieu mène un combat contre. Comment a-t-il mené ce combat? Il a mené ce combat en mettant toujours l'amour qui pardonne en premier. Je pense que l'exemple de Zachée, c'est quand même un exemple ultra simple, mais c'est quand même un exemple intéressant. Zachée était intéressé par la parole du Christ. Tellement intéressé qu'il monte sur son arbre pour entendre et voir Jésus qui passe. C'est-à-dire que cette parole déjà a fait son chemin dans son cœur et dans son attente. Il y avait quelque chose. Parce que quand Hérode aimait bien entendre Jean-Baptiste, il l'a décapité quand même. C'est une parole qui n'avait pas fait vraiment son chemin. Là, il monte. Et la foule était complètement avec Jésus. Et lorsque Jésus dit à Zachée, aujourd'hui je vais demeurer chez toi, la foule est contre. Elle est contre Jésus. Elle se retourne. Jésus aurait montré Zachée, lui aurait dit à la foule, vous voyez celui-là, c'est un salaud, il vous a piqué plein de sous, et en plus il ose se montrer devant vous, mais il aurait été applaudi, il aurait été le roi de Jéricho, parce que la foule est comme ça. Et là, il montre Zachée et dit, aujourd'hui je vais aller demeurer chez toi. Chacun dans la foule, il rêvait que, ce soit, que Jésus aille demeurer chez lui. Et il a choisi Zachée. Et il a la foule contre lui. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il ne faut pas craindre l'hostilité dans notre combat pour l'amour. Il ne faut pas craindre l'hostilité dans notre combat pour le pardon. La foi ne se construit pas dans un monde de facilité. La foi se dit en osant assumer l'hostilité à l'amour. L'hostilité au pardon. C'est très violent, cette hostilité qu'il y a au pardon et à l'amour. C'est quelque chose d'incompréhensible. Mais c'est quand même ça. Et c'est ce qu'on voit dans l'Évangile. Et Zachée, il ne lui a pas dit, bon, maintenant, il faudrait que tu changes de vie quand même. C'est le fait même que l'amour ait été demeuré dans son cœur qui a changé sa vie. Quelqu'un avait espéré en Zachée le meilleur. C'est le deuxième mouvement pour lutter contre le mal. Vous voyez, oser assumer l'hostilité, mais oser espérer. Espérer et ne pas faire un donnant-donnant, tu changes de vie et le Christ vient chez toi. Non, le Christ vient chez toi, alors cette lumière, elle va changer ta vie. C'est-à-dire oser croire en la puissance d'un Dieu qui habite en l'autre. Ne pas désespérer de l'autre. Je crois que trop souvent, on désespère de l'autre. Et cette désespérance est justement ce qui empêche le combat de Dieu pour le salut du monde. Ce rapport à l'hostilité, ce rapport à l'espérance qui voit la grandeur d'un homme, qui voit sa sainteté, qui voit sa beauté, y compris dans le plus grand des criminels. Voir la beauté d'un homme, même quand Sainte Thérèse, elle prie pour Pranzini, celui qui il allait être décapité, là, vous rappelez, et qu'est-ce elle croit en la beauté de Pranzini, alors même que tout le monde crie à mort. C'est parce que nous savons que chaque homme porte l'image de Dieu. Et que rien dans notre vie, rien de ce que l'autre fait, rien de ce que j'ai fait, ne pourra détruire cette image de Dieu qui est en moi et qui est en l'autre. Et que je dois révéler ce lieu virginal de toute personne humaine qui est ce lieu où il est image de Dieu. C'est ça la relation de l'espérance. Et c'est ça qui va permettre à l'homme de se lever, de changer de vie et de dire au Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez les deux mouvements. Assumer l'hostilité au nom d'un pardon qui révèle la beauté de l'homme. Alors ensuite, si on continue la manière dont Christ nous montre ce combat, on voit la dimension du courage. Parce qu'il faut du courage Le courage, c'est le moment où il décide de monter à Jérusalem pour justement mener l'ultime combat contre le mal et contre la souffrance. Et ce combat, il le mène en durcissant les traits de son visage, nous dit saint Luc, et en prenant résolument le chemin. C'est tout le rapport de la volonté intérieure. Comment notre volonté intérieure est peu à peu éduquée à une volonté du bien et de l'amour qui sauve. Comment est-ce que nous savons peu à peu prendre en nous cette volonté intérieure? Comment nous savons la saisir pour agir, pour qu'elle devienne effective? C'est pas si simple, hein, parce que on préfère toujours laisser couler l'eau que de la contenir. Hein. On préfère laisser couler les événements que de savoir les diriger. Et du coup, prendre un chemin. Donc ça, le combat contre le mal, contre la souffrance et contre la mort, c'est un combat qui demande une volonté intérieure. Une volonté intérieure pour ne pas être complice du mal. Pour pas être complice de la souffrance en disant, tu sais, la souffrance, tous les gens souffrent, évidemment. Pour pas être fataliste devant la mort. Inch'Allah, il faut bien qu'il y en ait qui meurent. Vous voyez, or nous ne sommes pas des fatalistes, nous sommes des sujets d'action. Parce que Dieu fait de nous des sujets. Et vous voyez que tout ce que je vous ai dit, c'est nous rappeler que nous ne sommes jamais ni l'objet de Dieu, ni l'objet d'un autre, et que nous n'avons jamais accepté d'être l'objet d'un autre. Nous sommes des sujets qui sont capables de dire « je t'aime, je veux, je construis ». Car c'est le jour où je commence à me reconnaître comme objet ou à reconnaître l'autre comme un objet que ce fatalisme, finalement, a détruit ma relation à moi-même et a détruit mon combat contre Dieu. Parce que j'ai détruit l'amour. L'amour ne peut pas exister dans un rapport de sujet à objet. L'amour n'existe que dans la communion de deux sujets libres, à égalité. Et donc c'est ce mouvement-là, vous voyez que l'histoire de Zachée, comme l'histoire de Jésus qui prend le chemin de Jérusalem, c'est un chemin qui va demander cette force d'être un vrai sujet pour avancer. Alors après, il faut se demander, et ce combat, comment Jésus le mène? Comment Jésus le mène sur sa route? Il le mène de deux manières. D'abord en étant fidèle en amitié. C'est quand même un élément fondamental pour montrer sa manière d'avancer. La fidélité en amitié. Quand Jésus dit quelle relation il a avec vous, si quelqu'un un jour vous demande qu'est-ce que c'est qu'être chrétien, vous pouvez répondre comme le Christ, je vous appelle mes amis. C'est-à-dire, c'est l'amitié qui dit justement la relation qu'on a avec Jésus. Et c'est l'amitié fidèle, qui dira votre réponse à la question du mal, de la souffrance et de la mort. Jésus, c'est l'ami fidèle. Et parce qu'on appartient au Christ, nous devons apprendre la fidélité dans l'amitié. Parce que c'est cette fidélité dans l'amitié vraie qui va être le chemin du combat contre le mal, contre la maladie, contre la souffrance, tel que Jésus l'a mené. Ça n'a pas toujours été simple pour lui d'être l'ami fidèle, parce que vous vous rappelez quand même, au pied de la croix, ils ne sont plus très nombreux quand même. Mais même avant, quand il se fait arrêter, il y en a un qui décampe, vous n'avez qu'à regarder à la fin de l'évangile de Marc pour voir comment il décampe. Il y a Saint-Pierre, et il renie le Christ. Non, je ne suis pas, je connais pas et tout ça. Judas qui le trahit. Et qui en plus, deuxième trahison, il ne croit pas au pardon et il va se suicider. Et puis quand il multiplie les pains, il ne se fait pas des amis en multipliant les pains pour la foule. Il se fait... Ils finissent tous par décamper, à tel point que Jésus se tourne vers ses apôtres et leur dit, vous aussi, vous allez partir. Et Saint-Pierre, qui a la bonne réponse, lui dit, oh non, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais l'amitié, lui, reste l'ami fidèle. Et donc, je pense que c'est ma troisième réponse à la question, l'amitié. être des amis fidèles. Nous devons être des exemples d'amis fidèles. On ne doit pas être des amis comme quand vous étiez en CM2. Quoi. En CM2, c'est « tu es mon ami, ma meilleure amie, etc. » Et puis, 3 minutes après, « ah, t'es plus ma copine, parce que, voilà. » Et 3 jours après, t'es à nouveau ma copine. Mais, donc, ce n'est pas une amitié de CM2, c'est une amitié fidèle, même s'il y a des amitiés de CM2 qui durent toute la vie. Oui.
En soi, est-ce qu'on va se réjouir de la mort de Gabon? Pas au sens de se réjouir, oh là là, enfin, oh, il est mort, c'est génial et tout, mais se réjouir plutôt de la vie éternelle. Qui va...
Oui, alors, justement, sur cette amitié, je vais y arriver, justement. Cette amitié, elle te donne, tu comprends différemment la mort de quelqu'un quand c'est un ami ou quand c'est pas un ami. Et c'est pour ça que je voulais d'abord, avant d'arriver à la mort, arriver à l'amitié. Parce que je pense que l'amitié va nous dire quelque chose de ce que c'est que la mort. Je ne peux pas traiter la mort indépendamment de l'amitié. Parce que on souffre beaucoup plus quand c'est un ami qui meurt. On souffre beaucoup plus quand c'est un ami qui souffre ou qui est malade. La relation est totalement différente. Et c'est très important, du coup, de le situer dans la relation au Christ. D'un Christ qui nous dit d'abord « je ne veux pas de ce qui coupe l'autre de sa relation ». C'est la guérison des lépreux. Je ne veux pas de ce qui empêche l'homme d'avancer, c'est la guérison du paralytique. Je veux donner à l'homme de pouvoir voir mon amour et de me reconnaître, c'est la guérison de Bartimée à Jéricho. Chaque guérison est un signe qui vient nous donner de comprendre ce qu'est l'homme que Dieu veut. Pour être ami, mais si je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure, tu me la reposes, si j'oublie. Pour être ami, alors, et pour vivre cette relation de lutte contre le mal, contre la souffrance et contre la mort, cette amitié, elle doit se vivre en se laissant aimer. Parce que si l'arme du combat, c'est l'amour, il faut se laisser aimer pour être capable d'être armé pour le combat. Car mon arme, c'est aimer. Et c'est l'amour du Christ qui est mon arme véritable. Comment je vais apprendre à aimer ? Alors, je ne veux pas tout dire sur la manière d'apprendre à aimer. Il y a 2 éléments clés, puisqu'on parlait de Benoît XVI, et je vais reprendre sur Benoît XVI. Il a un très belle encyclique là-dessus. C'est l'encyclique « Dieu est amour ». Tout le monde me cite la 2e partie, je vous invite à lire la 1ère partie, qui est bien meilleure. Enfin, vu par moi. C'est toute la manière dont il dit, pour aimer, il ne faut pas que l'homme aille inhiber ses pulsions, inhiber ses puissances, inhiber ce qui est encore un peu désordonné dans son humanité. Il faut qu'il apprenne à conduire cette force dans un amour vrai. Tout le travail de l'éducation, du chemin spirituel, de tout ce qui accompagne spirituellement, c'est ce passage qui va conduire ce qui peut être un peu désordonné ou une puissance un peu sauvage dans l'être humain, à quelque chose qui va être un amour vrai. Mais non pas en inhibant la force, parce que sinon ça va nous rendre comme des limaces, mais en donnant, en conduisant cette force dans une manière vraie d'aimer. Donc ça, c'est le principe même de notre manière dont on travaille notre vie, ce que j'appelais la volonté intérieure tout à l'heure, pour conduire cette capacité. Et puis il y a un 2e élément, c'est, pour ça que je faisais allusion à Bartimée, à la guérison de l'aveugle, c'est la manière dont nos 5 sens, et je dirais autrement nos blessures, ne sont pas des obstacles à l'amour, mais sont des portes d'entrée pour aimer. Le tombeau est vide puisque je suis ressuscité. Et puisque je suis ressuscité et que le tombeau est vide, ce qui en moi est un obstacle à l'amour, mes blessures, mes limites, mes péchés, tout ce que j'ai pu faire de mal, tout ce qui est... tout ce que j'aimerais ne pas être, tout ça va devenir des portes pour être capable d'aimer parce que ça a été repris par le Christ et guéri dans le Christ. Et du coup, j'aime et j'apprends à me laisser aimer par mes 5 sens et j'apprends que c'est que c'est par mes blessures que je suis guéri de mon incapacité à aimer. Et que mes blessures, mes cicatrices, deviennent des portes d'entrée pour me laisser aimer et d'être capable d'aimer. Ça devient des portes d'amour et non pas des obstacles à l'amour. C'est ça le baptême.
C'est pas limité aux cinq sens, hein.
C'est limité aux cinq sens parce que je crois dans ce que je dis, effectivement, pas pour toutes les souffrances, mais si je souligne, c'est parce que dans la tradition chrétienne, les cinq sens sont les cinq portes. Je ne sais plus ce qu'on a eu comme texte d'évangile il n'y a pas longtemps, ben, si c'était les vierges sages et les vierges folles, et qui se divisent par groupe de cinq, et c'est justement une parabole sur l'utilisation des cinq sens dans la prière. Et on a ça, je ne sais plus combien la Samaritaine avait de Marie chez Saint Jean. Et elle en avait cinq aussi, qui est le rapport effectivement dans le récit de la Samaritaine sur les cinq sens, sur la manière d'être transfiguré par l'amour de Dieu. Donc il y a quand même toute une tradition chrétienne là-dessus. C'est pour ça que je reprends, parce que c'est la tradition de Saint Ignace, c'est la tradition dans l'Évangile, dans un certain nombre de textes. Et donc c'est important de reprendre à partir de cette tradition. Et donc, mais surtout, c'est comment des souffrances, des blessures, des moments où j'étais victime, des moments où j'ai souffert, des moments où j'ai eu l'impression même d'avoir une mort dans ma vie, comment ces passages par le baptême deviennent des portes à une capacité d'aimer et deviennent le lieu où je suis capable d'aimer, de faire miséricorde, de transformer et où je suis transfiguré par l'amour de Dieu. Ce passage-là, c'est le passage du baptême. Donc ça, c'était effectivement pour vous amener à l'ultime combat, parce que après, enfin, vous dîner, à l'ultime combat de Dieu, qui est justement le combat de la mort. Je ne justifierai jamais la mort. Et donc, pour moi, la mort, c'est toujours quelque chose qui me scandalise. C'est toujours une séparation, c'est toujours une souffrance. La seule chose qui a pu, parfois, en dehors de ma foi, évidemment, mais qui a transformé mon regard sur la mort, c'est le don que des personnes qui meurent sont capables de nous faire au moment où ils meurent. C'est la manière dont ils sont capables de nous remercier, la manière dont ils sont capables de nous dire un mot, de faire un geste quand ils ne peuvent plus parler. Là, il y a quelque chose, parce que ça guérit, ça rejoint ce que je disais sur les combats entre les peuples, ça guérit la mémoire par un simple mot de celui qui nous sauve en mourant. Et que ça, c'est la seule chose qui, dans un rapport humain, en dehors de la foi, a toujours été pour moi quelque chose de très, très étonnant. Même si on n'est pas là au moment où la personne meurt, parce que les choses ne se passent pas toujours comme nous échappent. Mais la mémoire de ces moments-là sont des mémoires qui nous guérissent parce que ça nous réconcilie. Et je pense que dans le rapport à la mort, il y a un rapport de réconciliation qui est extrêmement fort. Quelquefois, comme ce que je raconte, c'est on a la chance de pouvoir le vivre dans la relation directe en une minute ou deux, hein, parce qu'une personne qui meurt, elle n'est pas, elle va pas nous faire un long discours, mais de pouvoir la pressentir dans un moment, et puis d'autres fois, c'est dans un autre travail qu'on fait sur soi-même de réconciliation après. Mais ce travail de réconciliation, il est essentiel pour que notre combat contre la mort soit un combat amoureux, et non pas devant quelque chose qui est un obstacle, qui est une douleur, qui est une séparation, et je pense que c'est normal de pleurer devant la mort. Jésus a pleuré devant la mort de son ami Lazare. Il n'y a pas de raison que nous ne pleurions pas devant la mort de nos amis.
Enfin, il l'a quand même ressuscité.
Il lui a rendu la vie comme signe pour qu'on puisse accueillir sa résurrection. Mais il lui a rendu la vie, il l'a revivifié, il ne l'a pas ressuscité. Mais c'est aussi une figure du baptême, tu as raison. Et c'est donc une figure de cette manière dont la vie nous est redonnée. Et du coup, dans cette manière de vivre notre baptême, dans la confrontation à la mort, il y a cette expérience de le vivre dans l'amitié avec le Christ, qui nous donne d'être réconciliés parce que nous sommes les uns et les autres ensemble, frères et sœurs. Et donc il y a une réconciliation de la mémoire qui nous donne alors de pouvoir offrir à l'autre l'amour de Dieu. On vit quelquefois, nous, alors moi maintenant que je suis évêque, quand j'étais prêtre j'en faisais beaucoup plus d'enterrements, mais il y a des moments qui sont terribles dans ce qu'on perçoit du cheminement qui a entraîné la mort ou de la manière dont c'est vécu dans une famille, etc. Notre travail de foi, c'est justement de vivre de réconcilier les gens avec eux-mêmes dans cette relation-là, pour qu'ils puissent comprendre qu'on ne combat pas la mort par la violence, on la combat en la traversant par l'amour. Parce que si on est... Attends, je termine. Si on est sans la foi, la mort, c'est une voleuse, hein, la mort. C'est une voleuse terrible, elle vient nous piquer la vie. Et donc, elle est forcément... On va la combattre en essayant de maintenir notre vie. Ou on va la combattre en croyant qu'il faut la mettre à mort et on va se mettre à mort nous-mêmes dans l'euthanasie. Et donc, parce que l'euthanasie n'est que la fascination personnelle de la mort, parce qu'on veut mettre à mort la mort, mais on la met à mort par nos propres armes. Et donc c'est une manière dont la violence de la mort se retourne contre nous-mêmes en se la donnant à nous-mêmes. Et à travers nous-mêmes, on la donne en fait à celui à qui on euthanasie. Et donc c'est un problème de liberté fondamentale. C'est un problème parce que justement de notre réaction devant cette violence que peut représenter la mort dans une vie. Et il faut avoir conscience de cette violence que ça peut représenter. Et pour quelqu'un qui ne croit pas du tout en la résurrection, pour qui vivre comme actuellement dans une société aussi individualiste que la nôtre, où finalement on vit dans une société individualiste où la vie, c'est l'exaucement de ce, où la vie, la transcendance de la vie, c'est l'exaucement de son désir individuel. Voilà, on voit bien. Un certain nombre de lois sont maintenant au service d'une société individualiste qui marque la transcendance de l'homme par l'exaucement de la transcendance de son désir personnel, d'avoir ou de ne pas avoir des enfants, de vivre ou de ne pas vivre, d'être heureux parce qu'on a droit au bonheur, de posséder parce que la transcendance de notre désir individuel, c'est de posséder. Donc on vit dans une transcendance du désir individuel et non plus dans la transcendance d'un Dieu qui nous aime et qui nous sauve et qui recrée l'humanité. Donc on est sur deux anthropologies totalement différentes. Quand on est dans la transcendance, dans la transcendance de son désir individuel, je comprends très bien que des gens comme ça disent si ma transcendance de mon désir c'est d'avoir un enfant, ben je veux un enfant, quel que soit le moyen. Je veux plus vivre dans cette condition-là, je me donne la mort, ou je veux être euthanasié. C'est l'absolutisation de la transcendance du désir personnel. Je comprends, c'est pas mon avis, je suis opposé, parce que c'est pas ma conception de la société ni de l'homme. Mais c'est une anthropologie présente dans la société qu'il faut savoir regarder en face, parce que c'est celle dans laquelle notre société est en train de se construire. Et donc c'est celle qui marque l'avenir de la société. Moi, je suis dans une relation chrétienne, c'est mieux, enfin pour moi, et donc mon rapport à la mort va être de quelqu'un qui est déjà mort et ressuscité. Et donc pour moi, ma question, c'est plus comment je vais être l'objet de la mort qui va me voler la vie. C'est comment je vais être le sujet de ma mort en faisant une offrande au Père. Comment le Christ est mort? Alors vous allez me dire, il a été crucifié, tout ça, ça je connais. On me l'a déjà dit. Mais surtout, comment le Christ est mort? Il est mort en faisant l'offrande de sa vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a été jusqu'au bout de l'amour, le Christ, dans sa mort. Il a fait de sa mort un cri d'amour et une offrande d'amour. Que ma vie devienne une éternelle offrande à ta gloire, comme dit la prière eucharistique 3. Cette offrande de son existence, qui est l'offrande même de sa vie. Et donc pour moi, qui appartient à la résurrection du Christ, et qui donc est déjà passé par la mort du Christ, et qui donc vit en moi ce que le Christ a vécu pour nous. Alors, il faut que je fasse de ma mort un chemin de ma liberté où je vais dire « je » et où je ne vais pas accepter d'être l'objet de la mort. Et parce que il faut que je fasse de la mort un geste d'amour, dont un geste dont je sois le sujet amoureux dans mon offrande à Dieu le Père. C'est un acte libre. Ce n'est pas un acte d'esclave que de mourir. C'est le problème de notre société. Le problème de notre société, c'est que la mort est prise comme un chemin d'esclavage. C'est le dernier lieu que l'homme n'a pas réussi à vaincre. Et donc, il est l'objet de la mort. Eh bien non, je serai le sujet de ma renaissance et de ma résurrection et de mon offrande au Père, dans la confiance de la foi et de l'amour. Et donc ma question, c'est comment faire de ma mort cette offrande libre d'amour au Père, comme le Christ l'a vécu. Ça rejoint au moins l'obéissance ecclésiale, qui est d'obéir à l'amour. Ça, vous savez, les religieux, ils font vœu d'obéissance, pauvreté et chasteté, si je prends dans l'ordre des religieux. Et donc, l'obéissance à l'amour. C'est-à-dire, je vais oser obéir à l'amour et faire de ma vie une offrande jusqu'au bout de ma vie. Dans la mort, il faut accepter d'être pauvre. C'est-à-dire, on n'emporte rien. On est dépouillé de tout. Déjà, à l'hôpital, on est sacrément dépouillé. On ne fait plus grand-chose... On est tout le temps enquiquiné, il faut soigner tout ça. Non mais c'est vrai, on perd, on est obligé d'être remis à quelqu'un d'autre. C'est une très belle, c'est une expérience étonnante. On nous dit fais ci, fais ça. Donc on est dans un chemin de pauvreté et de remise de soi. Mais on peut le faire à contre-cœur ou on peut le faire amoureusement. Et puis de chasteté, parce que je vais en faire un acte où je serai sujet d'un Dieu qui perd, qui est sujet, dans la communion d'amour. Et je pense qu'effectivement, ce combat contre la mort demande que nous ayons l'offrande de notre vie jusque dans la mort, parce que nous savons que nous allons de la vie à la vie, et que Dieu a fait de la mort ce passage qu'il nous a déjà donné de franchir dans notre baptême. Et donc que c'est vraiment un acte qui construit notre vie dans un chemin d'avenir. Mais vous voyez, cette question d'objet-sujet dans la question de la maladie, de la souffrance ou de la mort, c'est une question essentielle. D'abord, c'est une question clé de la vie spirituelle. Mais alors, évidemment, il y a une chose où vous dites que je n'ai absolument pas répondu, c'est la question de la souffrance. Parce que j'ai répondu sur le mal et la mort et j'ai fait l'impasse, vous avez remarqué. Enfin, moi, je vous fais remarquer mes impasses. Il faut toujours que je vous dise ce que je n'ai pas fait, quand même. C'est la question de la souffrance. J'ai encore 3 minutes, 5 minutes, 5 minutes. J'espère que ça ne crame pas. Et alors, la question de la souffrance est une question très difficile à saisir. Je dirais 3 choses. La première, c'est que je ne justifie jamais la souffrance. Ça, c'est jamais un bien. Je crois qu'on a beaucoup progressé en médecine sur l'accompagnement de la souffrance. On doit encore progresser. Je ne suis pas sûr qu'on sache toujours accompagner dans tous les hôpitaux les détresses respiratoires, un certain nombre de types de souffrances, etc. Voilà. Mais enfin, comme vous regardez Zélie Martin, la manière dont elle a souffert dans son cancer des os, et la manière dont on accompagne la souffrance maintenant, vous voyez quand même comment on est dans un vrai progrès du rapport à la souffrance. Donc, je ne justifierai jamais la souffrance. Ça, je ne peux pas. Le deuxième élément, ça serait vous citer Claudel. Jésus, dans sa passion, qui emplit de sa présence la souffrance qui est sans Dieu, puisqu'elle ne peut pas venir de Dieu. Mais Jésus qui a changé quelque chose dans la souffrance en l'emplissant de sa présence. Vous avez ça dans le chemin de croix de Claudel, vous avez toute une méditation sur ce rapport entre la souffrance et la manière dont Dieu dans sa passion, dont le Christ dans sa passion vient reprendre et habiter la souffrance. De ce non-sens, il en donne un sens. Alors ça mène à ma troisième réponse, qui est plus compliquée. je ne suis pas sûr que vous... C'est la phrase de saint Paul, qui est une phrase qui est un peu compliquée, qui est « J'achève dans ma chair ce qu'il manque à la passion du Christ pour la rédemption du monde. » Alors, je comprends que ce soit un peu compliqué. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'achever dans sa chair ce qu'il manque dans la passion du Christ? Parce que, dans la passion du Christ, il y a une sacrée souffrance. Donc, comment ma souffrance va justement être quelque chose qui va transformer ma relation au Christ dans lequel je vais partager ma vie dans le Christ. Personne d'entre nous, on fera l'économie de la croix et de la souffrance. Hein. Ça, on y passera tous. On a tous dans nos vies la souffrance et la croix plantées dans nos vies. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, on vous endort en vous faisant rêver de vies d'eau tiède et d'oreiller, mais sachez que vous ne l'aurez jamais. Ça, c'est des rêves pour nous endormir. Mais cette manière de comprendre comment Dieu ne me sauve pas, Dieu m'a entièrement sauvé dans la mort et la résurrection, mais Dieu ne me sauve pas malgré moi. Il me donne de participer à ce qu'il m'a déjà entièrement donné dans sa mort et sa résurrection. Donc il me donne de participer à la rédemption du monde là où il a déjà sauvé l'humanité. Et cette participation, c'est-à-dire que je ne suis pas la marionnette de Dieu qui aurait sauvé dans sa passion, je suis celui qui est uni totalement à lui pour avoir part à sa passion, part à ce salut pour l'humanité. Et donc je participe au salut, et c'est cette participation au salut dans laquelle, uni au Christ, je vis quelque chose de la souffrance véritable, qui n'est pas forcément la souffrance corporelle, qui n'est pas forcément la souffrance de la maladie, qui peut être la souffrance parfois psychologique aussi. Ça m'est égal, la souffrance, elle n'a pas de visage. La souffrance, nos cartésiens, ils peuvent toujours la découper en tranches entre souffrance physique, la maladie, la souffrance morale, tout ça. Ils me font rigoler, un homme qui souffre, il souffre. Hein. On peut lui dire, ah ben c'est physique, oui, mais enfin il souffre quand même. On peut lui dire, ah ben c'est psychologique, mais enfin il souffre. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu souffres pas parce que ta souffrance, elle n'est pas dans la bonne catégorie. Il y a une souffrance, et c'est la souffrance de l'homme. Il n'y a que la manière dont on va pouvoir vivre cette souffrance, non pas comme étant un objet qui subit, non pas comme subissant, mais comme participation mystérieuse à un salut que le Christ m'a déjà donné et auquel il me donne de participer. Voilà, donc ça c'est un troisième regard sur la souffrance. Donc pour résumer très rapidement, parce qu'il faut toujours avoir l'air de faire une conclusion, c'est ce qu'on m'a appris à l'école dans les manières dont il faut faire. Une fois qu'on a défini le fait qu'on ne donnera pas, qu'on ne nommera pas bien le mal, la souffrance, le péché, la mort, on va oser le vivre dans une dynamique de foi, c'est la dynamique du baptême qui me donne de vivre ressuscité, c'est-à-dire uni au Christ ressuscité. Et dans cette union au Christ ressuscité, où ma vie déjà ne m'appartient pas puisqu'elle est ressuscitée, puisque c'est la vie du ressuscité, je vais vivre la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, c'est-à-dire la dimension de ma liberté dans une offrande au Père. Et dans cette offrande au Père qui est d'aimer, l'arme de cette victoire contre le mal, contre la mort, contre la souffrance, ça ne va pas être la polémique, ça ne va pas être de vouloir détruire par nos armes, mais ça va être d'entrer par l'amour qui seul peut vaincre le mal, qui seul peut vaincre la mort, qui seul peut permettre à l'homme de supporter sa souffrance. Ça veut dire effectivement que le Christ étant déjà victorieux, il me donne de participer à sa victoire en prenant le chemin d'amour que lui-même a emprunté. Et que c'est ce chemin d'amour qui nous demande à la fois une force, une persévérance et une amitié fidèle les uns avec les autres pour pouvoir le vivre ensemble et que personne ne soit seul dans sa dimension de souffrance ou dans sa dimension de mort. D'où l'importance de votre neuvaine pour Mine, d'où votre importance de votre prière les uns pour les autres, et de votre amitié mutuelle, qui est l'expression même de votre foi et de l'Esprit Saint qui vous donne et qui nous donne de porter ensemble le salut à l'humanité. Voilà, merci.